Dans ce genre d'histoire, c'est surtout dur pour celui qui reste. Le mort, il est mort. Dans un couple uni par les liens sacrés du mariage, c'est dur pour celui qui reste. Parce qu'il souffre pour deux, au fond. J'en parle en connaissance de cause, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Heureusement qu'il me laisse un bon paquet de pognon. Ça ne remplace pas, mais ça atténue un peu le chagrin. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, je veux bien moi, mais quand on cherche ce qu'il peut y avoir d'autre, on ne trouve rien. C'est le côté triste de la condition humaine. On est idéaliste et tout ça, on a des grandes idées, des rêves de lumière et de beauté. Et puis il faut se rendre à l'évidence. Le seul idéal, la seule grande idée, le rêve, la lumière et la beauté de la vie, c'est l'argent. Et plus il y en a, plus c'est beau. Sauf quand c'est de l'homme. Là, de l'homme. Plus il y en a, moins c'est beau. Quand j'y pense, je me trouve du mérite. Avec le poids qu'il faisait, il y en avait à tuer. Comme disait ma grand-mère, on va plus vite à manger la miette que le pain. Mon mari, il était plus près de la miche familiale que de la ficelle. Je lui répétais souvent, tu sais, tu es trop gros. Un de ces quatre, on va te jouer des tours. Il me promettait de se mettre au régime. Il aurait maigri de 20 kilos. Je l'aurais tué quand même, mais j'en aurais eu moins à tuer. On ne peut pas dire qu'il m'ait facilité la tâche. Il a mis une certaine complaisance à rester gros. Il ne faut pas exagérer non plus. Compte tenu de son poids, ça s'est plutôt bien passé. Je ne me plains pas. À ce prix-là, ça valait la peine de se donner un peu de mal. On n'a rien sans rien. Il était très gros. J'ai adapté ma technique d'assassinat à sa corpulence. J'ai calculé. J'ai fait des règles de 3, des preuves par 9, de soustraction, rien de bien sorcier en fait. Et je l'ai cadré. Je me suis dit, mon gros, je vais te faire transpirer ta race. Et j'ai attendu le moment favorable. La bonne surprise, c'est que quand il a été mort, j'ai appris qu'il m'avait souscrit une énorme assurance vie sur ma tête. J'ai failli faire péter le champagne. Cette fois, cette nouvelle, c'était la cerise sur le gâteau. On peut dire qu'il savait s'y prendre, le bougre, pour ne laisser que des bons souvenirs derrière lui. Avec les femmes, il savait y faire. Il connaissait mes points sensibles, mon point G, mon point galette. J'étais tellement bouleversé que j'ai écouté de l'accordéon toute la nuit, au casque, pour ne pas déranger les voisins dans leurs préjugés sur les rapports qu'entretiennent les veuves et la tristesse. J'étais folle de joie, digne, ma folle de joie. Et tout ce bonheur, je ne me le devais qu'à moi. Je n'avais de merci à dire à personne. C'était mon œuvre, la récompense de mes efforts, le fruit sacré de mon travail, l'aboutissement d'un long processus de maturation intime. De nos jours, à la radio, dans les magazines, les psychologues passent leur temps à vendre des recettes pour être heureux. Dans ce domaine-là, on a tout vu, des trucs de vieille allemande, des trucs de vieille chinoise, des trucs de du temps des Incas, des trucs de l'Inde millénaire. L'hygiène de vie, pas d'alcool, pas de tabac, pas de sucre, pas de sel, pas d'huile, pas de beurre, pas de crème, pas de féculents, pas de pain blanc. Moi, j'ai tenu ce régime pendant 12 ans. Ça ne m'a pas apporté le bonheur. Ce qui m'a rendu heureuse, c'est d'assassiner mon mari. Je le dis comme je le pense, quitte à choquer tous ces charlatans et autres nutritionnistes pour pigeons des classes moyennes. Si on fait abstraction de la dimension morale, l'assassinat, quand il est réussi, n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, il faut le réussir. Il ne s'agit pas de se retrouver avec un mec en fauteuil roulant qu'il faut nourrir à la cuillère à torcher 6 fois par jour comme un bébé. Là, excepté les vendeurs de fauteuils roulants, tout le monde y perd. Pour tout dire, je suis allé assez content de ma prestation. Je ne suis pas certaine qu'il faut et qu'il soit vu mourir. Pour le mettre en bonne disposition, je l'avais fait picoler, ce qui s'appelle picoler à mort. Il n'y avait plus qu'à le pousser dans le vide. Ce que j'ai fait, il ne s'est rendu compte de rien. Il n'a même pas crié, il s'est écrasé 100 mètres plus bas. Il a fait une flaque. Je m'étais muni de jumelles pour contrôler l'état de son organisme avec la chute libre. Le choc avait été, on ne peut plus, fracassant. Il y avait des bouts de marée partout. Ma réussite était totale. Pour une épouse fusionnelle, c'est moins douloureux d'assassiner un mari que de le perdre dans un accident ou par maladie. Quand on assassine, on sait ce qui nous attend. On peut s'y préparer. Psychologiquement, je veux dire, pour l'assassinat, le crime constitue un traumatisme, un choc émotionnel dont il peut avoir du mal à se remettre, qui peut même le conduire à entreprendre une psychanalyse. La sagesse populaire affirme que l'animal est triste après l'acte d'amour. Tout en étant content de l'avoir fait, il ne faut pas se le cacher. Il en va de même pour l'assassin. Après l'acte criminel, il est à la fois soulagé et triste. Personnellement, j'ai ressenti quelque chose, oui. Pourtant, j'étais au point mentalement. J'avais prémédité à fond, j'y pensais depuis des mois, tout était parfaitement organisé comme pour une fête. Tout devait bien se passer. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Le succès dépend d'un petit poil de rien en plus ou en moins. Il en revient toujours à la théorie du grain de sable. Quand on imagine le nombre de grains de sable qui sévissent sur la planète et qui menacent les projets les plus soigneusement huilés, on hésite avant d'assassiner. On a trop souvent vu le crime se retourner contre le criminel. Les journaux sont remplis d'histoires navrantes à ce sujet. Pour une femme comme moi, assez vénale, je ne le nie pas. L'assassinat d'un mari aimant et aimé est sous-tendu par l'arrière-pensée de disposer d'une certaine somme d'argent et d'une certaine liberté dans la manière de le dépenser. L'argent sans la liberté ne vaut pas mieux que la liberté sans l'argent. Nous ne sommes pas des primates, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs parce que nous ne sommes pas des primates que j'ai continué à aimer mon mari, bien qu'il soit décidé, et donc sans espoir de réciproque amour, de pure générosité de ma part. Au-delà de la mort, j'investis des sentiments fusionnels, peut-être un peu spectaculaires, mais rien ne saurait être trop beau pour célébrer le souvenir d'un être cher, que j'exprime en monceaux de fleurs fraîches déposées sur le tombeau luxueux de mon défunt mari. Inoubliable. Et la mort et la mémoire. Elle me rappelle chaque dollar dissipé, chaque chèque dûment signé, chaque règlement par carte bancaire. Sa photo est dans mon portefeuille, comme une image pieuse. Il est devenu mon saint bienfaiteur, mon ange gardien. Chacune de mes dépenses est une prière que je vais monter vers lui via les comptes en banque. De là-haut, il m'approuve, je le sais. Certaines nuits, il me parle à l'oreille. Il me donne des idées de voyages onéreux. Il me suggère des dépenses somptuaires. Il me conseille des croisières pour changer d'air et me nettoyer les poumons. Je dois dire que la mort l'a beaucoup amélioré. Je crois que ça l'a même mûri. Il me comprend mieux maintenant. Il a meilleur caractère et s'est apaisé. Il est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Désormais, nous avons ensemble des conversations beaucoup plus tendues, détendues que de son vivant. Et beaucoup plus enrichissantes pour moi. Aujourd'hui, c'est le mari idéal. Discret et attentif, généreux aux petits soins, il s'inquiète quand il me voit mélancolique. Il me demande de réagir, de briser la solitude, d'aller en ville devant des gens et même des jeunes gens à faible revenu, mais animés de la rage de s'en sortir, au moins financièrement, en exploitant leur qualité de gymnaste d'intérieur. Comment m'opposer à la volonté d'un mort avec lequel je tiens à rester en bon terme? Alors, épouse docile, veuve soumise, femme disciplinée, je fais ce qu'il me demande de faire. Et le soir, je vais m'éclater dans les endroits sordides. Je recrute du fauve musculeux, de la bête nocturne, du marin sans marine, du saisonnier en cessation de paiement, du sportif en mal de sponsor. Comme il se doit, par gratitude, je dédie tous mes orgasmes à mon défunt mari. Dans mon livre de comptes, j'en passe de la somme déboursée pour ce loisir de femme. Qui ne veut pas se laisser aller, j'inscris la formule « séance de remise en forme ». Cadeau de mon mari chéri. De là-haut, il apprécie cette délicate attention par laquelle je lui signifie que je reconnais ses mérites et sa participation décisive dans l'obtention de mon plaisir. Ce n'est que justice. En effet, sans ce qu'il m'a laissé en mourant prématurément, je ne serai qu'une créature amère aux muqueuses desséchées, aux physiques de vieille croûte recuite dans l'eau. Grâce à mon défunt mari, je m'épanouis, je deviens moi-même, je grandis dans ma tête, je développe mes attitudes à l'égoïsme, au narcissisme, à la vanité, voire au snobisme. Je cultive le mépris des pauvres. C'est une sensation supérieure, j'ai gagné une grande confiance en moi. Toutefois, par fidélité à mes racines, je continue à voter pour la gauche, à suivre les défilés du 14 juillet et assister à la messe de minuit. C'est moins idéologique que culturel. Quand on assassine, on perd facilement ses points de repère. En cas de désarroi spirituel, la religion, la république, le socialisme aident un peu à s'y retrouver, à voir clair en soi. Ce sont des systèmes de valeurs inaltérables et qui font réfléchir, comme le maître étalon et le poids du lingot. Il n'est pas déplaisant de tuer, mais il faut prendre garde de ne pas y perdre son âme. Une fois menée à terme la procédure d'élimination, il n'est pas inutile de se recueillir, de méditer, d'effectuer un examen de conscience, de se tourner vers le ciel en toute innocence. Personnellement, après mon émancipation, je suis allé au cinéma voir une vie de Jeanne d'Arc. Et par une forme de pénitence, presque un désir de mortification, je me suis interdit de m'offrir un esquimau à l'entracte. Il y avait plusieurs années que j'avais l'intuition qu'il y aurait du profit à assassiner mon mari. Ce n'est pas non plus une décision qui m'était possible à prendre à la légère. Malgré la révolution des mœurs, tuer son conjoint reste tout de même un crime. Pas un crime vraiment répréhensible, mais un crime. Malgré tout, le mot fait peur. Pour en arriver à l'assassinat, il faut déjà se persuader que le jeu vaut la chandelle. Et puis dans un couple, quand il en manque un, l'autre se retrouve tout seul, il faut y penser avant de tuer. Après, il est trop tard. Aucun regret. Je n'ai aucun regret. Évidemment, en public, je pleurniche un peu. Si je ne jouais pas le jeu, les gens ne comprendraient pas. En matière de veuve, les gens sont très conformistes. Il leur faut de la veuve en larmes, alors je leur donne de la veuve en larmes, exactement comme je leur donnerais de la mayonnaise en tube. Le jour de l'enterrement, je me suis marré. Tout le monde m'embrassait en me gémissant dans l'oreille. Ma pauvre dame, ma pauvre dame. Ma pauvre, alors que je n'avais jamais été aussi pourri de pognon. Ma pauvre dame, ma pauvre dame. Et plus il était pauvre, plus il me traitait de pauvre dame. Je revois encore la concierge. Qu'est-ce qu'elle se fait au moins? Elle, Tout juste de quoi ne pas crever de faim, c'était la pire. Elle sanglotait, elle disait « Ah, ma pauvre dame, qu'est-ce que vous allez devenir? Mais qu'est-ce que vous allez devenir? » J'ai vu le moment où elle allait tourner de l'œil. En l'écoutant, j'ai compris pourquoi son mari s'était barré. Vivre auprès d'une femme qui dramatise tout, c'est insupportable. Elle ne s'en est jamais remise, jamais. Et elle croit que toutes les femmes sont comme elle, ma pauvre dame. Mais qu'est-ce que vous les allez devenir? Probablement qu'elle n'a jamais entendu parler de la résilience. Avant d'assassiner mon mari, j'avais suivi en autodidacte une formation à la résilience. Et quand j'ai eu le niveau, j'ai commencé par résilier mon mari. Pour tout dire, je l'avais résilié d'avance. Dans ma tête, il était cuit depuis longtemps. Il n'y avait plus qu'à pousser. Le premier devoir d'une femme, c'est de travailler à son bonheur.